Je vous propose à présent de passer au point d'ordre budgétaire et de façon tout à fait exceptionnelle, mais c'est prévu bien évidemment par la situation particulière que nous connaissons. Nous allons à la fois donc évoquer et présenter ce soir en conseil municipal lors de la même réunion donc le rapport d'orientation budgétaire suivi donc du budget primitif pour 2020. Donc Raymond Weinheimer, adjoint aux finances.
Merci. Merci. Comme tu viens de l'évoquer, on va essayer de faire un certain résumé, disons, du DOB, puisque vous avez tous été destinataires des documents que vous avez bien sûr pu parcourir et réfléchir sur ces sujets. Parce que dans cette situation, on va dire complexe et inédite, la présentation du DOB et du BP sont un peu particulières. C'est vrai que c'est la première fois que ça arrive. Et vous savez bien que quand vous avez lu les deux documents, il y a dans l'un des choses qui sont reprises dans l'autre. Donc, je ne vais pas refaire deux fois l'histoire, mais je vais essayer de vous faire un résumé assez court pour d'abord laisser le temps, puisque c'est le sujet, le DOB, le débat, et de permettre aux gens de s'exprimer sur ce sujet. Donc, comme vous le savez, cet exercice nous montre en fait les orientations générales du budget de l'exercice à venir, en tenant compte de l'ensemble des éléments extérieurs qui s'imposent aux collectivités locales, puisque nous ne sommes pas tout seuls dans le monde, avec notamment les décisions prises par l'État dans le cadre de la loi de finances pour 2020, sachant que vous voyez déjà aujourd'hui, elle a déjà été modifiée deux fois, donc vous voyez que la stabilité aujourd'hui et la complexité existent toujours, et d'autre part, les grandes orientations retenues par l'équipe municipale. Alors, au niveau international, on dépend bien évidemment de l'extérieur avec notamment par exemple les prix de l'énergie, les prix, les taux d'intérêt, la croissance mondiale, etc. C'est une première chose. Ensuite, au niveau national, eh bien, comme on vient de le dire, on dépend notamment de la loi de finances, de dotations de l'État, du déficit public, de la fiscalité et de l'emprunt public, des déficits, des décisions de l'État, notamment, par exemple, sur les augmentations de frais de personnel, sur les taxes, les impôts et taxes, sur les différentes choses, et puis de l'inflation que nous avons à subir dans le pays. Au niveau départemental, au niveau de l'État, ben, vous connaissez, il y a les grandes dotations, dotation globale de fonctionnement, la DSU, dotation de solidarité urbaine, la dotation nationale de péréquation. Voilà après les principaux financements auxquels nous avons droit. Au niveau départemental, on s'aperçoit que, effectivement, aujourd'hui, les aides que nous pouvons avoir ne sont que éventuellement des aides en matière d'investissement. Donc, on n'a plus d'aide. On n'a plus droit à des dotations puisque les règles d'attribution ont changé. Et au niveau municipal, donc on a la première chose importante, c'est que on maintient les taux, donc on ne les change pas, on ne les augmente pas. On a le maintien des frais de fonctionnement et des frais de personnel, malgré un certain nombre de modifications du SMIC qui a augmenté, des hausses du plafond annuel de la sécurité sociale, de la hausse des taux d'accident du travail. On a un niveau d'investissement qui a été soutenu et qui est toujours soutenu avec un des projets phares, un projet important qui est le restaurant scolaire. Et puis ensuite, vous avez comme chaque année, on va dire, les investissements classiques, qui sont le scolaire, les services techniques, et puis il y a un projet aussi qui est un projet, on va dire, en devenir, c'est le quartier Lysée. Donc voilà un petit peu les différentes choses. L'endettement de la commune, eh bien, s'élève à 24 millions, c'est impressionnant, 24 243 289 au 31 décembre 2019, contre 23 051 057 618 au 31 décembre 2018. Donc, il a progressé d'1 185 671 euros. Disons qu'il a été à l'époque rendu obligatoire par les investissements, la masse d'investissements qui avait été faite. Mais je vous rappelle quand même que aujourd'hui, ces investissements et ces emprunts sont financés par des emprunts qui sont à des taux très bas, puisque on a réussi à voir dans l'argent mis à disposition par l'État des taux à 0% et un taux moyen de 0,74%, sachant que nous n'avons pas, je le répète, mais c'est toujours bon à le savoir, c'est qu'on n'a pas d'emprunt toxique et que nos emprunts sont à taux fixe ou éventuellement à taux variable. Voilà. J'ai résumé peut-être un peu rapide, mais comme tout à l'heure, juste après, je vais recommencer l'exercice en vous expliquant plus dans le détail les différentes choses. Donc, je laisse Monsieur le maire ouvrir le débat sur ce débat d'orientation budgétaire.
Voilà, merci Raymond. Donc, de façon concentrée, bien entendu, puisque nous allons tout de suite décliner de manière concrète les propositions qui sont faites dans le cadre de ce rapport, mais néanmoins, bien évidemment, j'ouvre le débat, puisque c'est prévu par les textes et il est sain et naturel que chacun puisse s'exprimer. Madame Vollmer, y a-t-il d'autres interventions? Madame Vollmer, vous avez la parole.
Bon, d'abord, je tenais à remercier le personnel concernant les documents qui nous ont été remis. Ça démontre bien que la mobilisation du personnel, malgré la situation d'organisation particulière, n'ont pas failli à permettre aux élus d'avoir des documents de bonne de qualité, je dirais. Un constat quand même édifiant sur, vous l'avez souligné, Monsieur Van Helmer, sur le choix de nos gouvernements actuels et par rapport à tout ce qui se passe au niveau international, mais néanmoins, on constate par rapport à ces orientations, malheureusement, nous payons aussi l'incurie dont nos gouvernements ont fait preuve dans la gestion sanitaire de notre pays. Et aujourd'hui, il va bien falloir trouver des recettes, bon, même si nous sommes dans un DOB local, il y a quand même des orientations nationales qui permettraient d'avoir des recettes. Et je voudrais en citer quand même quelques-unes, parce que trop souvent, ce sont les mairies qui font les frais des orientations nationales. Nous sommes en proposition nationale, par exemple, d'augmenter la TVA sur les produits de luxe et par contre de baisser celle sur les produits de nécessité, de mettre en place une contribution supplémentaire pour tous les revenus dépassant 250 000 euros par an à 4% et de 10% pour ceux qui dépassent 500 000 euros, de taxer évidemment les dividendes, de rétablir l'ISF, de mettre en place une taxe Amazon pour toutes les entreprises du numérique et les assurances. Comme vous le voyez, il y a de quoi financer des projets, y compris locaux, à condition que la volonté politique de nos gouvernements aille dans ce sens. Si les mouvements sociaux ont été mis sous cloche, ils ne vont pas tarder à retrouver de leur vigueur quand on voit les rassemblements malgré les interdits. Localement, nous avons aussi des propositions et nous faisons aussi des constats. Nous constatons que cette année, nous pouvons mesurer les répercussions budgétaires réelles de la mise en place de Metz Métropole. Transfert du budget, recettes moins importantes, y compris au niveau des personnels. Un an de recul, mais une crise qui s'invite malheureusement dans la gestion 2020. Nous sommes quasiment à mi-mandat et donc à mi-gestion du budget, parce qu'il a bien fallu gérer le quotidien. La prudence, évidemment, reste de mise au niveau des investissements après de grands investissements tels que le complexe Europa et la réfection de l'église Saint-Joseph, pour ne citer que les deux principaux investissements. 2020, vous l'avez dit, ça sera la restauration scolaire et on s'en félicite puisqu'on est passé d'une prévision de 1 million à 2,5 millions et la préparation de la reconversion du quartier Élysée. Mais nous constatons qu'à peine inauguré, le complexe Europa va faire l'objet de travaux, ce qui est normal, direz-vous. Mais, et il y a un mais, sans doute est-ce là le résultat du choix de gestion en comité restreint, déjà dénoncé plusieurs fois. Cette manière de faire ne peut que occasionner des travaux a posteriori. Je citerai par exemple le sous-dimensionnement de la cuisine, c'est un réchauffe-plat. Ce sont évidemment plusieurs utilisateurs qui nous ont signalé ce défaut. Il y a aussi le manque d'aménagement pour le haut de Montigny. Alors que la concentration d'immeubles et donc de la population est importante, devrait servir de conducteur pour y ajouter de nouvelles infrastructures. Aujourd'hui, on constate qu'il y a très peu de projets sur le haut de Montigny. Comment se fait-il aussi que ne soit pas abordée la suite de l'enquête publique qui va encore accentuer la concentration d'immeubles pour remplacer la maternelle Giraud par des immeubles? Pourtant, nous étions déjà intervenus pour se faire les porte-parole de la population qui ne souhaitait pas voir arriver des immeubles à la place de l'école maternelle et du concierge, etc. Modification du PLU glissée dans celle prévue du quartier Lisé. Bref, en quelque sorte, du ni vu ni connu s'est emballé pour les promoteurs. Car là, il s'agit bien de terrains appartenant à la ville. La population du quartier, je l'ai déjà dit, ne veut pas d'immeubles. Elle a besoin d'un autre projet. Je vous rappelle que dans la même zone se situent aussi des projets immobiliers importants, tels que la chocolaterie et les futures mises à sac des terres cultivables, pour laquelle je m'étais opposée. Nous vous demandons de retirer ce projet qui n'a même pas fait l'objet d'une discussion en conseil municipal. C'est là aussi l'illustration des conséquences de Metz Métropole. La commune maîtrise de moins en moins ses projets et il est à craindre pour l'avenir. D'un côté, vous vous gargarisez avec l'environnement durable et de l'autre, vous bétonnez à fond le ciment, si je puis dire. Pour le fonctionnement, nous approuvons la décision de verser aux associations diverses les diverses subventions pour leur permettre de fonctionner. Si le CCAS voit une progression dans son budget, je rappelle notre opposition à la suppression d'une demi-unité dans cet organisme, et c'était cela avant l'arrivée de la pandémie. Nous avons besoin de force pour répondre aux besoins de nos citoyens. Et il nous faut aussi accompagner de façon plus forte les associations alimentaires. Dernière remarque, au-delà de cette prudence que l'on peut comprendre et que l'on entend bien, je souhaiterais que nous soyons informés d'un plan d'investissement à 3 ans pour permettre d'avoir une meilleure visibilité sur les projets qui sont incontournables et nécessaires à la ville. Merci.
Merci madame. Donc je voulais dire tout d'abord qu'il n'y a pas d'autres interventions sur le DOB, monsieur. La campagne est finie, mais je crois que chacun a pu s'exprimer à ce moment-là et chacun d'ailleurs a été sanctionné de par l'expression démocratique. S'agissant de la question posée sur l'investissement, et on va le voir tout de suite avec la réalisation, la concrétisation sur la discussion du budget, bien entendu que nous entrons dans les voies que nous avions déjà tracées s'agissant donc notamment du restaurant scolaire, que ça s'inscrit aussi dans une démarche prudentielle et adaptable, et ça c'est une caractéristique de ce budget que je vous présenterai tout à l'heure avec Raymond Weinheimer, bien évidemment qui intègre aussi la prudence nécessaire les investissements que, bien évidemment, nous allons prévoir durant les années qui viennent dans le cadre d'un programme pluriannuel des investissements, comme nous l'avons toujours fait, et auquel, évidemment, vous serez toutes et tous associés. Sur la question d'urbanisme, je suis surpris par vos remarques, que je respecte toutefois, puisque moi-même j'ai toujours prôné un urbanisme qui soit raisonné et qui soit équilibré, qui permette à la fois de développer notre ville tout en respectant les éléments essentiels de biodiversité, de circulation douce, de création de lieux de vie, et non pas de concentration de difficultés. Et donc, il a fallu, sur l'ensemble du périmètre de notre ville, réfléchir à de l'urbanisme qui soit doux et qui soit intelligemment réparti pour permettre eh bien, de rendre notre ville agréable à vivre et aussi attractive, et permettre donc qu'on puisse venir et qu'on ait envie d'y habiter, d'y vivre, et aussi peut-être, je l'espère, d'y travailler. C'est ce qui a présidé, bien évidemment, à la constitution du nouveau PLU que nous avions adopté donc en 2017, et il n'y a rien de neuf sur le soleil, puisque les projets que vous évoquez ont été adoptés dans leurs principes sur évidemment sur le PLU, et bien évidemment lorsqu'il y aura des projets importants, ils font l'objet d'enquêtes publiques, donc il n'y a rien, comme le quartier Élysée par exemple, de mystérieux, de caché, d'obscur ou je ne sais quelle autre problématique où il se trouverait que tout d'un coup on puisse urbaniser de manière sauvage tel ou tel secteur de notre ville. Il n'en sera jamais ainsi, ça n'a jamais été le cas, il n'en sera jamais ainsi. Donc, nous avons aujourd'hui, voilà, à apaiser les choses, à préparer l'avenir sereinement et dans un esprit de confiance. Moi, j'ai pu aller à la rencontre des gens durant tous ces mois, avant la période de confinement, bien entendu, et je continue aujourd'hui, et j'écoute ce qu'on me dit. J'ai toujours à cœur de trouver les équilibres dans les quartiers et à faire de la couture, si je puis dire, s'agissant de cet urbanisme et de cette reconstitution, finalement, de la ville sur la ville. Voilà. Et c'est ce que nous allons faire avec le quartier Élysée. C'est ce qui a été fait avec la chocolaterie, en lieu et place d'un lieu qui était autrefois une chocolaterie, mais qui, malheureusement, était devenu un lieu infâme et qui posait des problèmes. Et puis, bien évidemment, il y a dans la continuité du lycée cet espace sur lequel actuellement nous avons des fouilles archéologiques et qui étaient déjà prévues depuis un certain nombre d'années et que j'ai, peut-être depuis le début de mon premier mandat, donc c'était au 19e siècle, avec ces paysagères, avec ces grandes perspectives qui permettront de conserver justement cette vue et aussi donc de faire de la réception des eaux et autres. Et nous aurons à cœur, bien évidemment, de préserver un lieu essentiel pour moi, parce qu'il s'agit de l'histoire de notre ville, et tout ce que j'ai pu faire pour préserver, nous avons pu faire pour préserver des parcelles d'histoire et d'identité, eh bien, nous l'avons fait avec ce jardin que nous aurons à cœur à un moment ou à un autre, je l'espère, de constituer autour des vestiges de la ferme de Charles Quint, avec aussi la mise en valeur et en lumière de cette histoire beaucoup plus ancienne, puisque nous avons, lors des diagnostics archéologiques qui ont été faits par Metz Métropole, eh bien, pu identifier sur cet endroit des vestiges de l'âge du bronze, mais aussi de la période gallo-romaine, et puis un peu plus encore en avant, d'un lieu très important pour la communauté protestante dans donc cette histoire très riche, finalement, de notre ville que nous ne voulons pas voir se perdre. Et donc, ça va devenir un lieu à la fois donc de biodiversité, de promenade, un peu romantique avec ses ruines, mais en même temps un lieu d'histoire qui sera valorisé à travers des panneaux didactiques. Voilà, je crois que nous aurons là aussi, de ce côté de la ville, comme nous l'avons fait dans d'autres secteurs, eh bien, un jardin qui sera vraiment tout à fait remarquable, et je me réjouis de cette perspective. Voilà, je vous propose, donc il s'agit du débat, il n'y a pas de vote. Madame Vollmer, on a encore un budget.
Je crois que vous ne répondez pas à ma question. Je parle principalement du devenir, et c'est déjà venu au moment du débat du déclassement de l'école maternelle Giraud. Plusieurs fois, je vous ai alerté qu'il était souhaitable que ce ne soit pas des immeubles, étant donné la configuration locale, vous savez, vous la connaissez, en tout cas j'espère, hein, avec une tour Colson, la rue Flamand, la rue Giraud, en face le foyer Colson, à côté le collège, faut dire que bon, ça suffit, stop, les immeubles, ça suffit. C'est ce que la population souhaite, ou en tout cas ne souhaite pas du tout voir arriver un immeuble fût-il de 2 ou 3 étages. Il y a des besoins concrets en matière de parking, en matière de vie sociale, même si juste à proximité il y a un projet d'agrandissement par le comité d'entreprise des cheminots d'accueil, mais il y a besoin de places et d'aires de jeu pour les enfants. Si l'on regarde la concentration de population qu'il y a autour de ce secteur, il y a besoin d'un bouffon, d'un poumon d'air, enfin je veux dire un poumon vert. Et là, vous êtes dans le subrepticement, dans cette enquête publique. Mais moi, quand j'ai découvert le document, je dis mais c'est quoi? On profite. C'est quand je dis ni vu ni connu, c'est comme ça que ça a été découvert par hasard. Donc je pense que c'est pas une méthode. En plus, plusieurs fois en conseil municipal, je vous ai interpellé sur cette question-là. Aujourd'hui, vous n'avez pas répondu. Non, le béton, ça suffit.
Bon, écoutez, madame, je pense que j'ai pas de leçon à recevoir là-dessus. J'ai fait mes preuves, nous avons fait nos preuves. Et quand je parlais d'équilibre de l'habitat, de l'équilibre des secteurs, ça en fait partie. Il y a eu, en effet, une enquête publique qui a été formulée, qui a été faite dans le cadre de la modification numéro 2 du PLU. Et donc, j'ai ici le mémoire réponse du procès verbal de synthèse du commissaire enquêteur et des avis recueillis. Et donc, sur ce secteur, vous dites les habitants du quartier. Il y en a deux qui sont venus. Deux intervenants expliquent des craintes quant au projet de requalification du site de l'école maternelle. Donc, il y a vous et probablement M. Campagny, hein, donc sur Giraud et du logement du concierge qui est lié. L'un d'entre eux estime que ce projet va à l'encontre d'une vision écologique et équilibrée de la ville. L'autre contributeur suggère la réalisation d'un centre culturel ou de loisirs à 20 mètres des cheminots et à 300 mètres de Marc Sangnier. Donc, on l'a bien noté. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de projet pour l'instant qu'on m'a présenté, qui soit concret. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous faites une histoire ce soir. Peut-être faut-il bien entendu être vigilant. J'en disconviens pas. Et c'est votre rôle en tant qu'opposition. Mais moi, sachez que je serai aussi vigilant quant à la qualité des projets qui pourront survenir sur ce site-là. Alors, vous parlez d'espace de jeu pour les enfants. Je ne sais pas si vous connaissez le quartier, mais vous allez juste derrière, et il y a un magnifique multisport magnifique, un multistade, dont je suis très fier de dire que, en lieu et place d'une sorte d'espace de no man's land, de terrain vague, eh bien, c'était une des premières réalisations du premier mandat, d'avoir créé ce city stade avec tous les enfants du quartier. On en est très contents. Il y a un boulodrome également pour les plus anciens. Donc, et puis évidemment, il y a cet espace de jeu pour les tout petits juste à côté, qui est d'ailleurs désinfecté tous les matins, comme tous les espaces de jeu de la ville. Voilà. Donc, vous inquiétez pas. On suit les choses tranquillement. Chaque chose en son temps. Et vous serez bien évidemment, puisque vous êtes conseiller municipal, comme tout le monde ici autour de la table, associé, si tant est qu'un jour un projet se présente sur ce site-là. Mais j'espère qu'il y en aura un de projet. Voilà.